Je veux commencer ce matin avec une question. Et vous avez le droit de lever la main. Ce n'est pas une question piège, donc ne vous inquiétez pas. Qui veut connaître la faveur de Dieu dans sa vie? Donc, vous êtes assez nombreux à vouloir connaître la faveur de Dieu. Quand je vous ai posé la question, j'imagine, quand j'ai dit le mot « faveur », comme ça, soit vous avez pensé à un projet qui cartonne, ou vous avez pensé à l'argent qui coule dans une situation difficile, ou vous avez pensé à un ministère qui arrive à avoir beaucoup de succès, beaucoup d'adeptes, beaucoup de monde qui y croit. Peut-être la réussite professionnelle, une promotion. Oui, vous avez pensé à ce genre de choses? Non? Vous avez pensé à quoi? Donnez-moi... Quand je dis la faveur de Dieu, ça veut dire quoi pour vous? Bénédiction, donc les bonnes choses qui se passent dans la vie. Oui, vous avez pensé à ça? Oui? Ok. On va voir aujourd'hui ce que la Bible dit par rapport à la faveur de Dieu. Parce que franchement, quand j'avais commencé à préparer une prédication sur la faveur de Dieu, je ne m'y attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui ce que moi j'ai découvert. Ça m'a fait du bien. J'espère que ça va vous faire du bien aussi. Parce que souvent, nous, on a tendance dans nos vies à faire une équation qui dit « faveur de Dieu égale réussite en quelque chose ». C'est souvent l'idée qu'on a. Mais la Bible ne parle pas du tout de la faveur de Dieu seulement dans ces termes-là. C'est vrai que ça peut faire partie de la faveur de Dieu, mais les deux choses ne sont pas à l'égalité. Et la faveur de Dieu dans la Bible, ça commence avec ce que Dieu ressent. Parce que la première partie de la faveur de Dieu, c'est ce que Dieu ressent dans son cœur lorsqu'il te regarde et il aime ce qu'il voit. Okay? Ça commence là. Il prend plaisir à ce qu'il voit. Il trouve ça agréable. Il y a un petit quelque chose qu'il a vu, qui lui touche le cœur. Et c'est, j'aime ça. Et si on prend vraiment un exemple très rapidement, il y a Noé. Vous connaissez l'histoire de Noé. Noé, il vivait à un moment où l'humanité en général affligeait le cœur de Dieu. C'est comme ça que la Bible le dit. L'humanité affligeait le cœur de Dieu. Et puis il y avait Noé. Et c'est marqué que Noé, il vivait sa vie sous le regard de Dieu et il obtint la faveur de Dieu. Donc Dieu voyait comment il vivait sa vie et il a obtint la faveur de Dieu. Il obtint la faveur de Dieu. Et puis, il y a le deuxième aspect. Et c'est la suite naturelle. Parce que si Dieu voit quelque chose qu'il aime, ensuite il agit. Et c'est ce qu'on voit encore et encore et encore dans la Bible. La faveur de Dieu n'est jamais passive. Ce n'est pas Dieu qui dit, c'est top les gars, et puis il n'y a rien qui se passe. C'est beaucoup plus que ça. Dieu, dans le cas de Noé, et on va voir dans d'autres cas, Dieu il entre en contact direct avec Noé. Et ça, c'est sa manière de dire, toi, tu as ma faveur. Je vais entrer en contact avec toi parce que j'ai des choses à te dire. On peut avoir une bonne théorie de la faveur de Dieu, mais ce qu'il nous faut parfois, c'est vraiment des exemples qui montrent un peu du concret. Parce que sinon, ça reste une idée assez abstraite. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est juste prendre deux ou trois exemples où on voit concrètement comment la faveur de Dieu s'est déroulée dans la vie des gens. Et on va commencer avec Moïse. Moïse, j'aime bien Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a fait peut-être la tâche la plus ingrate dans toute la Bible. Parce que je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de Moïse, mais au moment là où on va regarder un passage, il est en plein désert avec un peuple, les Israélites, qui sont sortis de l'Égypte, ils ont été libérés de leur esclavage. Ils sont en plein désert et ils ont tourné le dos à Dieu. C'est très difficile en tant que personne qui est proche de Dieu d'essayer de mener un peuple qui a tourné le dos à Dieu. C'est assez compliqué. Et Dieu s'est marqué encore une fois que Dieu avait encore le cœur affligé par ce qu'il voyait. Tellement affligé, en fait, qu'il avait envie de rayer ce peuple d'Israël parce qu'il avait jusqu'à là. Avec ce peuple-là, il dit à Moïse, je vais tout recommencer avec toi. On va oublier le peuple d'Israël, et puis moi je vais recommencer, comme avec Noé, un peu. C'est, on va balancer le reste, on va commencer avec la personne qui a envie de me suivre. Et ce qu'on trouve dans ce passage-là, c'est Moïse en négociation avec Dieu. Parce que Moïse, il a beaucoup investi dans ce peuple. Et il veut voir la réussite de ce peuple. Et donc, on va regarder en Exode 33, versets 12 à 19. Alors, Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, et j'aime bien ce qui suit là, maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. » C'est ce que Moïse dit. Si réellement j'ai obtenu ta faveur, il faut que je sache ce que tu veux faire et il faut que je sache qui tu es. Ça, c'est la réponse de Moïse. Alors, j'aurai vraiment ta faveur. J'aurai vraiment ta faveur. Je saurai. Si je sais ce que tu veux faire et je sais que je te connais, là, je sais que j'ai ta faveur. Et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. Ça, c'est la négociation. C'est non, raye pas ce peuple de la carte, mais voilà, reconnais que l'Israël, c'est quand même ton peuple. Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. » Moïse reprit, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. À quoi reconnaître-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple, sinon si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre ?» Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. » J'ai une relation particulière avec toi. Ça, c'est le verset 17. Qui veut une relation particulière avec Dieu? Je ne sais pas, vous, moi, j'ai envie. Hein? Ouais. J'ai ta faveur, j'ai une relation particulière. Il y a un truc dans notre relation. Il y a quelque chose qui fait que notre relation, moi et Dieu, on est comme ça. C'est la relation que Moïse avait avec Dieu. Alors, que tirer de ce passage-là? Moïse, il n'a pas dit, si j'ai vraiment obtenu ta faveur, alors sors-nous de ce désert le plus rapidement possible, avec le moins d'obstacles possible. Il aurait pu dire ça. Si j'ai vraiment ta faveur, il faut qu'on arrive au bout, et rapidement. Mais il n'a pas dit ça. Le signe pour Moïse qu'il avait vraiment obtenu la faveur de Dieu, c'était la révélation de Dieu dans sa vie. Si j'ai ta faveur, j'ai ça. Je sais qui tu es. Je sais comment tu es. Et Dieu, il voulait se révéler son cœur, ses intentions, où il voulait aller, où il voulait mener le peuple, ce qu'il avait en tête pour ce peuple-là. Et Moïse, il voulait grandir dans sa connaissance de Dieu. Et ensuite, la deuxième partie, c'est qu'il voulait avoir la certitude que Dieu marchait avec lui. Alors, Moïse, c'est intéressant. Moïse, il n'est jamais sorti du désert. Il avait la faveur de Dieu. On lit là qu'il avait la faveur de Dieu. Il n'est jamais sorti du désert. Mais sa relation avec Dieu, c'était tellement proche qu'au moment où il meurt, c'est Dieu lui-même qui l'a enterré dans le désert. Donc, c'est important de savoir que parfois, la faveur de Dieu ne veut pas dire qu'on va sortir du désert. Ce n'est pas toujours quelque chose qu'on a envie d'entendre. Parce que qui veut rester dans un désert, franchement? Mais la faveur de Dieu était sur Moïse. Alors la faveur de Dieu, ça avait commencé avec une révélation de Dieu. Dieu choisit de se révéler son cœur, ses intentions, comme il a fait pour Noé, comme il a fait pour Moïse. Alors Noé, il a vécu bien avant l'alliance que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Et puis on a Moïse qui est en plein milieu de cette histoire d'alliance. Mais Dieu ne se limite pas à les groupes restreints. Parce que la troisième personne que je veux voir rapidement, c'est quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le peuple de Dieu. C'est un Romain, déjà. C'est un non-juif qui, en plus, fait partie de l'armée de l'occupation de la terre promise. Vous savez de qui je parle? Bravo! Sonia gagne 10 points. Oui, on va parler de Corneille, parce que c'est quelqu'un assez intéressant. Il croit quand même que Dieu existe, comme beaucoup de monde. Il croit que Dieu existe. Il sait qu'il faut vivre correctement devant Dieu. Mais ça, c'est la limite de de sa relation avec Dieu. En fait, il n'y a pas vraiment de relation avec Dieu. C'est, je sais qu'il y a un Dieu et je sais qu'il faut que je sois à peu près correcte dans ma manière de vivre. Parce que la Bible nous dit qu'il craignait. Il craignait Dieu. Il avait quand même une conscience qu'il y avait un Dieu qui regardait ce qu'il faisait. Donc, il fallait être réglo dans sa manière d'être. Et on va regarder en Actes 10. On trouve qu'on est, il est tranquillement chez lui, un jour. Et puis, un ange qui se présente devant lui. Et on va lire en Actes 10, verset 4. Corneille le regarda et tout tremblant demanda, « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Ok, n'oublie pas, Corneille, il croit que Dieu est à craindre, mais il ne connaît pas Dieu. Alors, sa première pensée, c'est « Qu'est-ce que j'ai raté ?» Qu'est-ce que j'ai... S'il y a un ange là qui arrive comme ça, ça veut dire que voilà, j'ai fait un truc et c'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il? L'ange lui répondit, tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu et il est intervenu en ta faveur. J'aime bien ce verset-là. Il est intervenu en ta faveur. Vous savez, dans la version Louis II, ils ont une autre manière d'exprimer là, cette pensée-là. Au lieu de dire il est intervenu en ta faveur, ce qui est marqué, c'est que Dieu s'est souvenu de toi. Mais ce n'est pas juste que Dieu était là, « Ah ouais, Corneille, ouais, je me souviens de lui. » Ça a un sens un peu plus large. Et voilà, en bon prof, j'ai fait une petite illustration. Vous savez ce que ça veut dire, « Il s'est souvenu de toi » Quand Dieu se souvient de toi, la Bible dit que Dieu était sur son trône et que ce que Corneille avait fait de bien est monté un peu comme ça, comme une offrande, et Dieu s'est souvenu. Donc Dieu, il est sur son trône, et puis... Ah, les bonnes choses que Corneille a fait, ça commence à monter comme une offrande. Et Dieu, il sort sa liste de choses à faire aujourd'hui. Et numéro 1, Corneille, me révéler à lui. Okay? C'est quand la Bible dit que Dieu s'est souvenu de lui, c'est ça. Ça veut dire que Dieu a décidé de mettre Corneille, numéro 1, sur sa tâche, sa liste de choses à faire aujourd'hui. Ce n'est pas juste Corneille, je veux que tu saches que je pense que tu es un brave type, pour que Corneille puisse dire, je pense que je suis un brave type. Okay? C'est beaucoup plus fort que ça. L'expression est forte et c'est plutôt, Dieu est tellement interpellé par ce qu'il a vu chez toi, tellement interpellé, que maintenant il prend les choses en main. Il prend les choses en main, il change la direction de ta vie. Donc, quand Dieu intervient dans notre faveur, en notre faveur, il y a forcément quelque chose qui change. Forcément quelque chose qui change. Alors, quelle est la faveur que Dieu voulait accorder à Corneille? Contre tout ce qui était recevable à l'époque, il voulait se révéler à cet homme et à son entourage qui ne le connaissait pas réellement, même s'ils avaient cette crainte de Dieu. Et en résumé, on a déjà parlé de cette histoire assez récemment, mais juste pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là, Dieu arrange une réunion d'évangélisation personnelle chez lui avec le plus grand orateur de l'époque. C'est comme si un ange apparaît devant toi et te donne un numéro de portable et te dit, ça c'est le numéro de Reinhard Bonk, invite-lui chez toi. Ça a le même genre de poids. Tu es insignifiant et Dieu veut que vraiment la personne qui mène les choses là vienne chez toi pour parler de toi, de Dieu. On ne parle même pas des efforts que Dieu a dû mettre en place pour convaincre Pierre d'y aller. Et deuxième chose, sur sa liste de choses à faire, c'est Pierre casser ses préjugés. Parce qu'on sait très bien que Pierre, il n'avait pas trop envie d'y aller. Il pensait que c'était pas la bonne chose à faire. Et donc Dieu, quand il dit que je prends les choses en main, il prend vraiment les choses en main. C'est non seulement je fais pour toi ce qu'il faut faire, mais je vais arranger les choses autour pour que ce que je veux soit accompli. Et donc, même avant que Pierre termine sa présentation de l'évangile, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire, le Saint-Esprit descend, c'est le bazar spirituel général, c'est magnifique. Pierre ne trouve pas une bonne raison de dire non pour le baptême d'eau, donc ils sont baptisés. Dieu a intervenu en leur faveur parce qu'il voulait que ces personnes-là le connaissaient de près et pas de loin. La Bible dit que Dieu appelait les gens qui étaient de loin, les non-juifs, pour qu'ils viennent près de lui. Et ça, c'est l'intervention de la faveur de Dieu pour Corneille. Alors Dieu, il est interpellé par notre crainte de lui. J'ai déjà prêché sur la crainte de Dieu, je ne vais pas en reparler. Vous pouvez écouter la prédication si vous avez besoin de rafraîchir un peu la mémoire. Mais il voit notre désir de lui plaire. Et c'est comme si quand Dieu voit notre envie de lui plaire, qu'il ne peut pas s'empêcher de s'ouvrir envers nous, de se révéler. J'aime ce que je vois, il faut que j'intervienne. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je pousse les choses un peu plus loin. Il faut qu'ils comprennent encore mieux ceci ou cela. Le psaume 25, versets 12 à 14. À l'homme qui le craint... Ah, c'est pas la même version. Bon. À l'homme qui révère, c'est la même chose, l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent. Il les instruit de son alliance. Okay? Il y a quelque chose qui se passe. Quand il y a une crainte de Dieu, Dieu commence à dévoiler son cœur. Il commence à se révéler. Qu'est-ce que j'ai en tête? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Où est-ce que j'ai envie d'agir? Et ça nous permet de fonctionner dans les desseins de Dieu. Alors, le signe principal de la faveur de Dieu dans notre vie, c'est le fait qu'on grandit dans la connaissance de Dieu. On ne stagne pas. Moi, j'espère que l'année prochaine, je vais connaître Dieu encore mieux que je le connais aujourd'hui. Si tout ce que j'essaie de dire en ce moment, c'est tout ce qu'il y a à savoir, franchement, c'est un peu triste. Parce que je suis consciente que ma connaissance de Dieu, c'est comme ça, par rapport à ce qu'il y a à connaître de Dieu. Mais c'est le problème, c'est que la connaissance de Dieu, ah oui, c'est beau, c'est une belle phrase. Ouais, je vais grandir dans la connaissance de Dieu. Le problème, c'est que c'est pas très visible. Et nous, les humains, on aime bien que les choses soient visibles. Et si c'est visible, ça veut dire qu'on peut le mesurer. On peut le quantifier. Et le problème, c'est que la faveur de Dieu n'est pas mesurable. Ni en nombre, ni en argent, ni en taille, ni en notoriété, ni en réussite professionnelle ou sociale, comme le monde le comprend. C'est très humain de vouloir mesurer la faveur de Dieu sur ta vie en faisant des comparaisons qui sont très superficielles. Okay? C'est quelque chose qu'on a tendance à faire. La vie n'est pas un concours. Qui peut gagner le plus de la faveur de Dieu? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je veux juste vous donner une petite anecdote de ma vie. Au moment où j'ai terminé ma formation d'enseignante, j'avais passé le CAPES, j'avais fait mon année stagiaire, j'étais titularisée. Il y avait un poste à pourvoir à l'université de Valenciennes, où j'avais déjà travaillé en tant que lectrice. Et je voulais vraiment ce poste. Je voulais être là, c'était clair pour moi. Une amie qui a terminé sa formation en même temps, qui avait aussi travaillé en tant que lectrice à l'université de Valenciennes, elle aussi, elle voulait vraiment ce poste. Et on savait que tous les deux, on était les seuls en lice pour ce poste. Oh Seigneur, Seigneur, donne-moi ce poste. Parce que Seigneur, je suis ton enfant. Voilà, faveur de Dieu. Le problème, c'est que mon amie, elle est aussi chrétienne. Et la question à ce moment-là devient, qui sera l'enfant préféré? C'est bête, mais tu sais, on se pose des questions parfois. Et le problème, c'est qu'il y a un poste. Donc forcément, il y a quelqu'un qui n'aura pas ce poste. Il y a quelqu'un qui n'aura pas ce poste. Et donc, qui aura la faveur de Dieu? Comment est-ce que Dieu décide dans ces cas-là? Ça, c'est vraiment un raisonnement très, très humain. Très, très humain. Je ne vais pas vous donner la suite pour l'instant. Voilà, on va garder un peu de suspense, vous allez voir. Mais c'est une fausse prémisse, parce que la Bible est très claire que Dieu n'a pas de favori. C'est intéressant, quand j'avais commencé à regarder ça, dans quasiment tous les livres du Nouveau Testament, c'est marqué quelque part que Dieu n'a pas de favori, que Dieu n'aime pas le favoritisme, que Dieu, il est contre ça. Donc, je pense que c'est vraiment un message que Dieu veut faire passer. Il n'y a pas de favori. Ce n'est pas Héloïse qui est plus le préféré, le petit chouchou de Dieu que moi. Ok, c'est pas le pasteur qui a plus la faveur de Dieu que moi. Ok, c'est important de bien saisir parce que on le lit mais on le croit pas parce qu'on croit que Dieu il est en train de donner plus de faveur à quelqu'un d'autre. Ok, donc il faut casser cette pensée là. La Bible dit aussi, et ça on aime bien citer, que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Okay? Donc, Dieu n'a pas d'enfant préféré. Je l'ai dit au moins 3 fois, comme ça, peut-être ça va rentrer. C'est à un niveau individuel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croire que quelqu'un d'autre a plus la faveur de Dieu que toi? Si on est honnête. Voilà, on est à l'église, là, on est censé être honnête. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé, j'avoue. Et la pensée du monde nous pousse vers cette croyance-là, ok? Parce que moi, je subis plus de soucis que lui, donc ça veut dire que j'ai moins la faveur de Dieu que lui ou elle, d'accord? Alors, est-ce que ça tient face à la Bible? Non, si je vous pose la question, voilà, la réponse est non. Comme ça, on est clair. Et parce que si ça c'est vrai, ça veut dire que Paul, l'apôtre Paul, n'avait pas du tout la faveur de Dieu. Et je pense qu'on est plus ou moins d'accord que l'apôtre Paul opérait avec la faveur de Dieu. D'accord? On va lire un passage, c'est un de mes passages préférés de la Bible, parce que ça met les choses en contexte. Ok? Si tu peux projeter Cassandre. 2 Corinthiens 11. 5 fois! J'ai reçu des Juifs les 40 coups, moins un. Ok, 40 coups, ça c'est un bâton comme ça, on tape. Donc 5 fois, Paul a eu ça. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, lapidé. J'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent, en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. Voilà, on détecte un peu de conflit, là, côté relationnel. Ils pensaient qu'ils pouvaient compter sur ces gens-là, et non, finalement. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches. Qui a connu les nuits blanches? Oui. La faim, la soif, de nombreux jeunes. On imagine ici que c'est les jeunes non choisis. Il y a les jeunes qu'on peut choisir. Le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, parce qu'apparemment il y a encore des choses qu'il n'a pas citées là. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Ça c'est un verset pour les pasteurs. Non, parlons même pas d'être lapidé. Là, j'ai une église à gérer. Donc, c'est Paul qui il y avait d'autres choses qu'il n'avait pas dit là, qu'il a vécu pour avancer dans les choses de Dieu. Et donc, il donne cette liste là. Mais ce qui est intéressant, c'est que vers la fin de sa vie, il est en prison. Je pense pas qu'il a mentionné le fait d'être en prison là. Non. Donc, la fin de sa vie, il est en prison, dans un trou noir horrible, si on croit ce que les commentateurs ont dit. Et il écrit ceci, Philippiens 3, verset 8. Je vais même plus loin. Tout en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela, tout ce qui pouvait être un avantage. Il a dit, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Dans la version révisée du Semeur, c'est marqué, c'est ainsi que je... la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de... Il y a un afin de gagner le Christ. On continue? Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ. C'est-à-dire, alors voici ce que ça veut dire, connaître le Christ. Expérimenter la puissance de sa résurrection, première chose. Qui veut expérimenter la puissance de sa résurrection? Et avoir part à ses souffrances. Qui veut avoir part à ses souffrances? Parce que vous savez, il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'un sans l'autre. En devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenue au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Pourquoi? Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Jésus-Christ s'est saisi de moi. Et vous savez, pour Paul, la faveur de Dieu commençait au moment, sur la route vers Damas, où Jésus-Christ s'est saisi de lui. C'était assez violent, ce qui est arrivé à Paul. C'était une confrontation comme ça, avec Dieu. C'est Jésus, dans la lumière, qui dit, « Mais Paul, tu ne sais pas qui je suis. Je suis celui que tu persécutes. Voilà qui je suis. » Ça, c'était le début de la révélation. Paul, il essayait de bien faire. Il pensait bien faire. Il pensait protéger la réputation de Dieu avec ce qu'il faisait. Et je pense que Dieu l'a vu, il dit, bah, c'est super le fait qu'il soit si ardent dans ce qu'il fait. Mais bon, franchement, il faut qu'il marche dans la bonne direction là. Sinon, il va vraiment créer les dégâts. Et si je vois ce feu là, moi, je veux que ce feu brûle dans la bonne direction. Et donc ça, c'était le début. Et cette faveur continue avec une connaissance de Dieu qui ne cessait de grandir. Ce bien suprême. Il dit, c'est le bien suprême. C'est ça que je veux. Et cela avait très peu à voir avec ses conditions de vie. Si on regarde ce que Paul a dit par rapport à sa vie. Et donc ça, c'est au titre individuel. Et puis, il y a notre communauté. Parfois, on constate qu'il y a les églises tendances et l'église moins de tendance, et que ça a tendance à évoluer dans le temps. Cette année-là, c'est le phare qui est l'église tendance. Et puis l'année prochaine, il y a une autre église qui sera l'église tendance. Et on a tendance à mesurer ça avec oui, combien de personnes sont là, qui fait quoi, ils ont combien d'argent qui rentre, ils ont combien de projets, ils ont combien d'enfants dans le travail parmi les enfants. Et on commence à faire les calculs. Et le problème, c'est que, pour commencer, la faveur de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas le compter. Parce que, et je vous donne vraiment l'exemple, il n'y a pas de meilleur exemple, d'accord? Vous avez Dieu lui-même qui vient sur terre, Jésus, pour ceux qui étaient dans le doute, ok? Jésus, il vient sur terre, il passe 3 ans de ministère, il a ressuscité les morts, il a guéri des milliers de personnes, il les a nourris, il a délivré les gens, il y avait les démons qui s'enfuyaient. Et à la fin de tout ça, il y a 120 personnes. Il y a plus de monde qu'il a quitté, qui était resté à la fin de son ministère. Et ça, c'est Dieu lui-même. Donc, pour les pasteurs, ça devrait enlever un peu de pression. Parce que si Dieu lui-même, après tout ça, il arrive à avoir 120 personnes, je ne sais pas combien de personnes. Là, on est déjà aux 3/4, je dirais, de ça. Bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Mais on a tendance à penser comme ça. On a tendance à penser comme ça. La faveur, par contre, le fait que la faveur de Dieu soit sur Jésus, il n'y a aucun doute. Si on regarde en Marc 1, alors ça c'est la version hyper condensée de ce qu'on peut lire plus complètement dans d'autres évangiles. Mais c'est, or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Alors, je vais juste arrêter là un instant. Tu peux laisser le verset. Tu fais toute ma joie. Apparemment, ça c'est une expression, une sorte de phrase très connue à l'époque. Et le mot qui veut dire la ma joie, c'est le mot oudokia. Et ça veut dire faveur. Et c'est une expression qui dit, Dieu, quand je vois Jésus, quand je te vois, la faveur en moi, ça fait ouf, et ça monte en moi et c'est déversé, comme ça. C'est un joli mot, oudokia. Ok? Et donc, on sait que Dieu, il est en train de dire ma faveur est sur toi. Et puis, on voit la suite. Aussitôt après, l'esprit, il fait quoi? Il pousse à Jésus dans le désert. Faveur de Dieu, désert. Ok? On peut continuer? Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Magnifique. Il était avec les bêtes sauvages et heureusement, les anges le servaient. Ok? Mais il faut qu'on retienne ça. La faveur de Dieu, parfois, ça peut nous mener directement dans le désert. Dans le désert. Le fait qu'on soit dans le désert ne veut pas dire que la faveur de Dieu n'est pas sur nous. Si c'est vrai pour Jésus, si c'est vrai pour Moïse, si c'est vrai pour Paul, c'est vrai pour moi. Ok? C'est vrai pour moi. Donc, ma faveur est sur toi. Maintenant, va vivre l'épreuve devant toi, sachant quoi? Que je suis là. Qu'est-ce qu'on voit là? Il y avait des anges. Ce n'est pas dans le désert et j'oublie toi un instant et puis voilà. Ensuite, vous pouvez sortir et là, on va passer un bon moment ensemble. C'est même au cœur du désert. On a vu avec Moïse. Où était Dieu dans le désert? Là. Il était là, dans le désert. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pendant cette période dans le désert, qu'est-ce qui se passe pour Jésus? Il affirme, dans une situation hyper compliquée, ce qu'il sait de son Père et ce qu'il sait de ce qu'il est appelé à faire. Ce qu'il confesse pendant cette période de tentation, on va pas rentrer dans les détails, vous pouvez les lire plus tard, mais il proclame le Père comme la source de sa subsistance. Lorsqu'il est sur terre, il est très clair. C'est pas le pain qui change les choses, qui fait que je reste en vie. C'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il atteste très clairement que Dieu donne la gloire à qui il veut donner la gloire, à qui il veut donner la gloire quand il veut donner la gloire. Ok? Deuxième tentation. Troisième tentation, c'est que Dieu qui mérite notre louange. Et dans cette affirmation, en fait, ce que Jésus est en train de dire, il sait déjà. C'est non, là, dans l'épreuve, je le dis. Je confesse ce que je sais de Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin de faire aussi. Dans l'épreuve, on a besoin de dire à haute voix, c'est bien. On peut prier silencieusement, mais vous savez, il y a des choses qui bougent. Quand vous dites des choses à haute voix, quand vous êtes en bas, et vous pouvez dire à haute voix, tu es bon. C'est pourri ce que je vis en ce moment, mais tu es bon. Mais tu es bon. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est une affirmation de la vérité de Dieu. Et on a besoin de pouvoir faire ça, c'est pas facile. Hein? Je suis en train de prêcher à vous, à moi. Je sais que c'est pas facile. Mais si on peut nous mettre dans une situation où on peut le faire, je peux vous assurer que votre connaissance de Dieu va grandir. Et puis, pour ce poste à l'Université de Valenciennes, vous savez, c'est mon ami qui l'a eu. Et j'ai passé 2 ans dans le désert avec les bêtes sauvages. C'est un peu méchant. Mais bon, j'avais l'impression parfois, j'étais dans un collège réputé difficile et parfois, on avait l'impression d'être vraiment avec les bêtes sauvages. Mais je vous dis, c'est la période la plus dure de ma vie jusqu'à là. J'ai dû dépendre de Dieu pendant ces 2 ans-là comme je ne l'avais jamais dû faire avant. J'ai appris les choses de Dieu pendant cette période-là que je, quand tout allait bien, je ne savais pas. Ou parce que je n'avais pas besoin de le savoir, en fait, ça restait superficiel. Quand tu es plongé dans un truc où tu as envie de pleurer tous les jours, là, tu commences à savoir qui est Dieu. Et Dieu, il s'est révélé à moi. J'ai eu des moments spirituels, si je peux dire, les moments soit dans la louange, soit dans la prière, plus puissants pendant cette période-là que dans toute ma vie, de là où tout allait bien. Et ça, c'est la grâce de Dieu, déjà, c'était bien. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la faveur de Dieu. Et j'avais besoin du désert pour me rendre compte de qui est Dieu. Pour grandir dans ma connaissance de lui, du fait qu'il est fidèle, qu'il est consolateur, qu'il donne de la force quand on n'a strictement rien à donner. Ça, c'était Dieu. Et franchement, c'est la première fois de ma vie, vraiment, où j'ai vécu ça. Et puis parce que Dieu est super, super gentil envers moi, 2 ans plus tard, il y avait un deuxième poste qui s'est ouvert à la fac, à Valenciennes, et je l'ai eu. Et donc, mais vous savez, c'est pas à ce moment-là où j'ai connu la faveur de Dieu. La faveur de Dieu commençait au moment où Dieu m'a poussé dans le désert. Donc ça, c'est important à dire. Et il y a tellement d'autres. On n'a pas le temps, mais vous allez voir partout dans la Bible, les exemples. Marie, juste un petit dernier. Marie, la mère de Jésus. Qu'est-ce qui se passe, Marie? L'ange arrive. Dieu t'a accordé sa faveur. Marie, c'est une bonne fille qui sait que c'est bien que Dieu accorde sa faveur. Seigneur, fais comme tu veux. Première chose, la remise en question de sa fidélité envers son fiancé. Et dans l'espace de deux ans, elle est réfugiée dans un autre pays. C'est la faveur de Dieu. Mais c'est la faveur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas vécu de bons moments. Mais il faut qu'on se rende compte que la faveur de Dieu n'est pas liée aux circonstances de notre vie. Parce que si on attend cette affirmation tout le temps, Dieu, il faut que je sache que j'ai ta faveur parce que ça marche et ça marche et ça marche. Là, on n'a rien compris de ce que Dieu veut faire en nous. Oui, Dieu veut bénir nos projets. Il veut nous guérir de nos maladies. Il veut faire toutes les bénédictions dont on avait parlé au début. C'est un Dieu qui est bon. Il veut faire ça. Il fait ça. Mais ce n'est pas le signe de sa faveur. Ou ce n'est pas le seul signe de sa faveur. Donc, il faut sortir de cette pensée-là qui fait une équivalence entre les deux. Deuxième chose que Gabriel dit à Marie, qu'il faut qu'elle entende, le Seigneur est avec toi. Dieu t'a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. C'est la faveur de Dieu. Dans tout ce que tu vas vivre, t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Donc, ce que je veux souligner, juste pour terminer là, c'est la faveur de Dieu se manifeste différemment pour nous tous. En fonction de nos vies, de nos situations, de ce qui se passe, du dessein que Dieu a pour notre vie aussi. Il y aura de la faveur visible. Il y aura de la faveur invisible. Il y aura même, si on regarde les réussites, on peut avoir les réussites flamboyantes où tout le monde est « Wow, la faveur de Dieu, c'est vraiment... » On voit. Parfois, c'est beaucoup plus discret. Mais il y a même parfois les réussites qui ressemblent à des échecs. Si vous pensez à la mort de Jésus, c'est la plus grande réussite qu'il aurait pu avoir. Mais aux yeux de quasiment tout le monde, c'était un échec. Mais parce que la faveur de Dieu était sur Jésus, ça voulait dire qu'il vivait, il avait envie de faire et d'être ce que Dieu a prévu pour lui, pour rester sous sa faveur, pour rester sous sa faveur. Jésus savait que sa venue et que sa mort faisaient partie de ce qu'on appelle l'année de grâce. Devinez quoi, ce mot grâce utilisé en Ésaïe, ça veut dire quoi? Ça veut dire faveur. C'est le même mot qui est traduit. C'est l'année de faveur. Nous, on vit dans une période de faveur. Jésus avait dit, ce qui avait été annoncé par Ésaïe, cette période de la grâce, de la faveur de Dieu, avec moi, ça devient maintenant. Et ça veut dire que pour nous, on vit dans cette période de la faveur de Dieu. Et j'ai envie de faire quelque chose. C'est vrai que souvent on prie pour, par exemple, pour que les malades soient guéris ou pour que les situations difficiles changent. J'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. J'ai simplement envie que dans notre situation, on puisse dire à Dieu, je veux te connaître. Donc, je vous invite à vous lever. Est-ce que je peux avoir l'équipe?